Soleil d'un jour sur Radio Lac de 11h à midi comme tous les dimanches avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Nous étions à Sainte-Poala dimanche dernier.
Cette fois nous y sommes.
Nous y sommes.
À Veracruz.
Nous sommes à Veracruz, Maurice. C'est une petite ville, c'est une grande ville, mais il y a plusieurs Veracruz.
Il y a eu plusieurs Veracruz, mais il n'y a qu'une Veracruz. J'entends par là que l'endroit, l'implantation de la vraie croix à l'époque de Cortés, on en reparlera tout à l'heure à cause de ce retour de Quetzalcoatl, et ce 22 avril 1519, le moment où il a touché les côtes, justement, eh bien, c'est vrai qu'il a déménagé plusieurs fois. Mais enfin, Veracruz, la Nueva Veracruz, ce seul d'aujourd'hui, c'est la quatrième, c'est la seule qu'on connaisse. C'est une ville qui est importante, à peu près la grandeur de Genève en habitants, même un peu plus. C'est le plus grand port du Mexique, mais c'est surtout le climat. Enfin, il y a des endroits qui font rêver, comme ça, sur la planète. On pourrait dire Tampico si on a envie de chanter, mais on pourrait dire Veracruz quand on a envie de vivre des moments tropicaux.
Oui.
Oui. Vous y êtes, là ?
Oui, j'y suis, oui.
Je me suis arrêté parce que, instantanément, quand je songe à cet endroit, je...
Non, mais vous dites le climat, alors le climat. Parlez-moi du climat, justement.
Ah, c'est difficile, parce qu'on n'a même plus envie de parler quand on y est. J'entends par là, vous vous installez. Quand j'arrive à Veracruz, c'est vrai que j'abandonne tout. Je refuse de faire quoi que ce soit. C'est le seul endroit, peut-être, en Amérique latine, où systématiquement, dès que j'arrive d'un avion, dès que je débarque d'un bus, même si j'arrive en bateau, et ça m'est arrivé de revenir en bateau à Veracruz, donc de retourner une nouvelle fois depuis l'Europe sur ce port, eh bien c'est vrai, c'est systématique, je passe la douane, je passe un endroit obligatoire, et puis je m'installe. Et quand je dis je m'installe, là j'ai l'air d'insister un petit peu, mais c'est vraiment ma colonne, j'ai une colonne qui a ce côté mal peint, un peu décrépit.
Gravé Maurice Efti.
Mais oui, carrément, on pourrait s'amuser d'ailleurs à écrire ce qu'on veut dessus, parce que cette peinture a déjà 20 ou 30 couches, et ça cracote, c'est humide, ce sont des voûtes anciennes qui font vraiment passer à ces vieux immeubles du 18e. Vous avez une place toute blanche avec une tour. Quand je dis tour, c'est une horloge en fait. Vous avez un vieil hôtel, l'hôtel Diligencias, qui est juste à côté, avec des calèches, avec des gens qui ne font rien, avec des bancs publics, des oiseaux à partir de 4-5 heures de l'après-midi qui viennent par milliers se poser dans ces arbres dont je n'ai aucune espèce d'envie de connaître le nom, avec des massifs de fleurs dont on n'a même pas envie de savoir quelles fleurs sont là. Ce sont des fleurs exotiques, des fleurs tropicales qui poussent parce qu'on est sous les tropiques. Et puis...
Alors, on a envie de laisser aller.
Ah, c'est pire que ça, les gens qui sont posés sur les bancs, vous avez l'impression qu'ils sont là depuis 20 ans. Il y a des gens que je connais depuis 20 ans au même endroit.
Au même hamac, dans la même place.
Pas tout à fait. Non, ça n'a pas seulement ce côté hamac, mais c'est vraiment le seul endroit d'Amérique latine où, quand je reviens, c'est toujours le même garçon qui me sert. Et au moment où je le croise, il porte en général dans chaque main une cafetière et quelque chose qui ressemble. Enfin, c'est pas vraiment une cafetière, c'est une grosse bouilloire. Alors, dans une, il y a du café, dans l'autre, il y a du lait. Et puis, si par hasard vous êtes arrivé le matin, c'est la seule chose qu'il fait. Il passe devant les gens, il pose des verres et il lève ses deux bouilloires jusqu'à un mètre de hauteur, il vous sert votre café au lait. Et il fait ça depuis toujours. Moi, je l'ai toujours vu là. Le jour où j'ai débarqué au Mexique, je l'ai rencontré et je le retrouve maintenant dans les mêmes conditions. Et la différence, c'est que le soir, il va me servir un Cuba Libre à partir de 6 heures parce que le café au lait, ça va bien pour le matin. Et cette colonne, c'est vraiment une chaise qui ressemble à des chaises tropicales comme on les a sur place, avec le petit côté canné. Le fauteuil confortable, bon, il n'est pas vraiment à bascule, mais il pourrait être à bascule. Il y a de l'Hemingway, il y a d'abord les gens qui passent. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne bougent pas, dont je parlais, qui sont sur les bancs. Il y en a qui simplement regardent les gens passer. Il y en a des qui font leur travail, parce que le travail de la nuit, par exemple, est un travail sous les tropiques. Ça peut être une fille, ça peut être un garçon, ça n'a aucune espèce d'importance. Ils sont toujours en train de fureter, ce sont des gens assez coquins. Et ça peut être pour leur plaisir ou ça peut être pour randonner. Et vous avez par exemple, je ne sais pas, le petit gosse qui va passer toutes les 10 minutes avec un bateau d'1m50 sur la tête, qu'il a construit ou qu'il a fait construire, avec les voiles, avec du bois assez léger. Alors bon, acheter un bateau d'1m50 sur 2m, ça n'est pas évident, mais il va passer toutes les 10 minutes pour essayer de vous le vendre. Et puis il y a celui qui va s'arrêter 50 fois dans la soirée, parce qu'une fois que je suis assis, je ne bouge plus. Donc je vais commander, bon, pourquoi pas, 1, 2, 3, 10 tequila, si vous avez vraiment envie d'alcool fort, ou alors carrément,
on va livrer avec... Soif, hein.
Non, il n'y a pas besoin, ça passe tout seul, il fait chaud, ça se distille bien, ça se transpire bien, C'est vraiment un port avec des marins. Et les marins, lorsqu'ils arrivent, ils débarquent, ils se posent.
Et ils boivent.
Ils boivent. Mmh. C'est vrai que c'est Amsterdam, c'est autre chose. Mais Veracruz, c'est cet endroit où il y a des gens qui bougent, qui sont de Veracruz, parce qu'ils ont envie de vous vendre quelque chose. Ben regardez, là, celui qui vient d'arriver, il a des Havanes plein les poches. Il a des boîtes. Je sais pas, il a 1m50 de boîtes posées les unes sur les autres. Tous les Havanes dont vous pouvez rêver, il va essayer de vous les vendre. Alors vous tâtez, c'est encore mou, c'est du tabac frais. Puis vous le sentez. Il va carrément vous en couper un, exactement comme si vous le faisiez chez Davidoff au coin, là, mm-hmm. ou chez son concurrent en face. Et alors, on vous coupe le cigare, on vous le met carrément dans le bec, on vous l'allume, et puis vous. Comme vous n'avez toujours pas bougé, vous n'avez même rien fait avec vos mains, vous vous retrouvez avec un Havane superbe, et puis il va partir pendant quelques minutes, il revient, il vous demande s'il était bien. Hein, puis il essaie de vous vendre une boîte. Et juste après, on peut vous vendre n'importe quoi. C'est-à-dire, vous pouvez pratiquement tout acheter. Le hamac que vous évoquiez tout à l'heure, on va vous le déplier. Vous ne faites rien, vous êtes toujours assis dans votre fauteuil. Moi, je pourrais passer une heure comme ça.
Ah, on pourrait passer toute histoires. Sa vie comme ça.
Mais on a envie d'y passer toute sa oui. vie. Et il y a des gens qui y passent toute leur vie. L'Américain, par exemple, le gringo qui est là depuis 40 ans, vous le voyez tous les soirs exactement à 6h15 ou à 7h20 ou à 8h30 parce qu'il y a trois gringos différents, par exemple, qui sont là depuis plus de 20 ans. Et en l'occurrence, il s'assoit...
Qu'est-ce qu'ils font ces gringos qui sont là depuis plus de 20 ans?
Il y a des gens qui ont
exactement comme... Quoi
ben, je sais pas, comme on en parlait l'autre jour, vous vous rappelez, on s'est amusé sur une plage à essayer de trouver des piécettes de monnaie ou des choses anciennes.
Oui,
voilà, vous pouvez être celui-ci, vous pouvez être celui qui a une plantation, vous pouvez être celui qui a décidé.
Mais ces gringos, ils ont quel âge?
Ben, ils n'ont pas d'âge. Ça n'a aucune importance. Ça peut être quelqu'un qui est 68 heures sur le tard, ça peut être quelqu'un qui est là depuis une génération mais qui a encore gardé son côté gringo, qui va peut-être avoir un élevage à 40 ou 100 kilomètres ou même sur les hauts plateaux, ses vaches à Ralapa, pourquoi pas, ou un petit truc d'artisanat ou un petit truc d'importation. Dans un port, on peut tout faire. Il peut même être au pire... quelqu'un qui occupe d'autres personnes, on peut être n'importe le gigolo du coin, pourquoi pas. Mmh. C'est un des endroits les plus affolants qui soit, parce que il n'y a qu'une classe de population qui change, c'est celle que vous avez connue il y a 10 ans et qui tout à coup en a 20 aujourd'hui. C'est-à-dire les enfants que vous avez croisés comme sireurs de bottes, que vous avez croisés en train de vendre ses bateaux, puis la fois suivante, il va commencer à vendre des Havanes et puis il va monter. Alors, ça m'est arrivé... Je prends un exemple tout bête, ça m'est arrivé de croiser des gosses comme cela, ou un gosse qui est là avec sa maman et ils essayent de vendre quelque chose. Puis vous vous rendez compte que ce qui les intéresse le plus, par exemple, où ils ont l'impression qu'ils vont gagner le plus, « Ah tiens, là, on vient de vous prendre en photo. » Alors vous avez le Polaroid. Alors il découpe le Polaroid en 6. Hein, c'est la plaque de Polaroid, elle est découpée en petits morceaux. Et puis, au bout de 10 minutes, vous avez quelqu'un qui vient à côté de vous et qui vous pose un porte-clés, par exemple, avec votre photo à l'intérieur. Juste le petit rond du porte-clés. Mmh. Alors, vous l'achetez ou pas, mais sur la table, là, tout à coup, clic, 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 il y a eu 4 ou 5 clichés et tout le monde se retrouve avec son porte-clés, avec sa photo. Alors, bon, ça coûte qu'une photo Polaroid qui est assez chère en soi, mais ça peut suffire pour gagner sa vie. Bah, si par hasard, vous aviez un vieux Polaroid à la maison, moi j'en avais un vieux, par exemple, qui était ses premiers automatiques fantastiques, qui sont ceux qu'on utilise dans tout le pays lorsqu'on fait de la photo ambulante. Bah, une fois, je l'ai pris avec moi, je l'ai donné à Veracruz. Bah, j'ai ouvert un commerce involontairement à Veracruz et 10 ans après, mon Polaroid fonctionne toujours, simplement qu'il a passé d'une génération à l'autre. C'est maintenant un plus petit gosse qui s'en occupe. Bah, pourquoi pas ? Une façon de gagner sa vie sans bouger.
Nous sommes toujours sur le socle, sur le Tocalo à Veracruz. On a goûté à la tequila, on a goûté au Havane.
On vient de goûter Michael Jackson.
Michael Jackson également.
Je parle de cela parce qu'en fait, vous pourriez très bien voir le petit gosse qui vous tient en basque là et qui aurait eu l'appareil incroyable qu'est le Walkman, que le gringo du coin lui aura apporté après sa cinquième visite, ça m'arrive aussi, et qui va écouter ce genre de musique et en même temps, vous êtes en train d'entendre tout autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance absolument délirante à partir de 8h, de 7h du soir, jusqu'à 2-3 heures du matin. Il ne faut pas attendre beaucoup plus longtemps. Il y a un petit côté...
Est-ce qu'il y a de la musique dans les rues comme ça?
Oui, justement. Oui. Alors devant, moi, je suis toujours assis devant ma colonne, toujours avec le même garçon, on n'a même plus besoin de lever le petit doigt. Dès que le verre est vide, il vous en rapporte un autre. Il y a aussi ce côté cadavre que j'aime bien. Oui, parce que les marins qui sont installés à côté n'ont pris que des bières, par exemple. Et pour pouvoir faire le décompte, on n'apporte pas de ticket. On compte les bouteilles et les cadavres. Hein. Ah. Et bon, ce sont des choses toutes simples, mais je crois que c'est ça qu'il faut observer. Il fait 32 degrés.
Par contre, pour la tequila, c'est pas évident. Hein.
Bah, il laisse les verres vides.
Ah, il laisse les verres vides. Ah, oui, alors, chaque fois,
si vous connaît bien, il met des coches, d'accord. Mais on n'en discute pas parce qu'on se connaît bien. Mais il y a une question de confiance. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il voit la tête du client, il se dit celui-là, il sera plus capable de compter tout à l'heure, donc je laisse tout. Mm-hmm. Et il est tranquille. Bon, ça sent des petits problèmes mineurs, mais la musique, c'est d'abord le fait qu'il y ait des groupes avec des harpes qui peuvent se déplacer facilement, donc, hein, un peu comme nos ambulants dans les rues, qui sont là devant vous, carrément, à 1m50. Mais à 1m50 plus loin, il y a un groupe avec une marimba. Et à 1m50 plus loin, il y a un autre groupe
avec
une marimba.
Est-ce qu'ils jouent aussi dans les trams? Il y a des trams à Veracruz?
Non, il y a eu des trams au début du siècle. Aujourd'hui, il y a surtout des bus. C'est une ville qui, en dehors du centre, est assez morne comme cela. La vie dont je parle, c'est vraiment uniquement cette place, et je dirais même uniquement cette terrasse, et j'ai presque envie de dire uniquement ce bistrot. Mm-hmm. Et finalement, là, sur cette seule petite rue piétonnière, vous avez 10 ou 15 orchestres ambulants qui vont s'installer. Alors, ça crée une ambiance assez fascinante parce que finalement on se retrouve jusqu'à 2h du matin sans avoir entendu un morceau complet parce qu'on sait plus du tout ce qu'on a entendu, pour être exact.
Oui, bien, force de boire de la tequila, évidemment, c'est...
Non, je crois pas qu'il faut... Il faut faire attention, là. Il faut pas croire que le côté...
Non, mais je sais, on
alcoolisé.
Élimine.
Oui, on élimine très bien. Et bizarrement, moi, j'ai toujours été étonné de voir des gens qui buvaient autant dans un endroit comme ça. C'est typiquement marin aussi. Et qui, au fond, se comportent assez bien. Vers 2h du matin, vous avez quelques excentriques qui commencent à sortir ou qui commencent à rentrer, ce qui revient presque au même. Mais finalement, c'est une ville, malgré tout, assez paisible. Il y a ce côté province. Il ne faut pas oublier que c'était le seul grand port avec l'Europe. Il ne faut pas oublier que ça a été pendant 4 siècles, pratiquement, le lieu de tous les revenus qui partaient ou qui venaient de la Nouvelle-Espagne. Et puis, il y avait surtout ce côté trésor mexicain qui y était installé. C'est une ville toute en bois qui a été pillée plusieurs fois, qui a été reconstruite plusieurs fois. Il y avait des pestes. Enfin, c'est vraiment... Il y a tout un tas de légendes, même si on ne retrouve pratiquement plus rien aujourd'hui. Et c'est cette ambiance dont je parle du Zocalo. Ben, il y a le côté Espagne, mais ça me fait penser aussi à ces ports, vous savez, ces ports levantins. On a l'impression de se retrouver à une autre... avec un autre rythme, une autre ambiance, une autre formulation, une autre façon de voir les choses. Il y a quelque chose d'enchanté, en fait. Quelque chose qui est vraiment propre à cet endroit. Et... Même les objets sont comme ça. Le bateau tout à l'heure, une petite chose en écaille de tortue, la façon de jouer au domino. Une partie de domino peut durer 8 heures. Parce
elle peut durer toute la journée.
Mais oui, pourquoi pas. Ça vous va? Je dirais que l'endroit est aussi assez légendaire parce que c'est quand même le premier point d'impact véritable avec le monde occidental. Quand on évoque Cortés, je parlais tout à l'heure de ce 22 avril, c'est une date dont je me rappelle bien, c'est un vendredi saint d'ailleurs, j'y étais, en 1519. Et le moment du débarquement, ça a dû être quelque chose d'assez impressionnant parce que finalement, arrivé sur cette plage, là, juste en face de l'île de San Juan de Ulua, bon, c'était une sorte de gros rocher, comme ça, une espèce d'écueil assez curieux. Il y a des fonds assez difficiles. Et on avait donné ce nom de San Juan de Ulua à cause de la première expédition qui avait déjà eu lieu par Diego de Velázquez. Vous savez, c'est le gouverneur de Cuba qui avait en fait empêché Cortés de démarrer. Et c'est aussi un endroit qui était assez curieux parce qu'on parlait de morts, on parlait d'idoles. On a retrouvé beaucoup d'enterrements de l'époque aztèque et même précédente à cet endroit. Et c'est là, finalement, qu'on va recevoir la première ambassade de Mexico, Tenochtitlan. Et on imagine assez fortement ce qu'a dû ressentir Cortés lorsqu'il a vu arriver ses coiffes de plumes, ses costumes, qui essayaient, en fait, de lui permettre de s'identifier, si vous me suivez. C'est-à-dire qu'on imaginait que ce personnage étrange, il est habillé de noir, il portait cuirasse, il y avait ces maisons étranges sur la mer aussi, avec des voiles, on ne savait pas très bien ce que c'était. Mm-hmm. Et on s'est dit, c'est sûrement ce dieu qui revient. Parce qu'il y a toute une légende. Je ne sais pas si vous la connaissez, le retour de Quetzalcoatl, c'est une chose assez simple. C'était le fait que...
C'est le serpent à plumes.
Oui, justement.
Ouais, le retour du serpent à plumes.
Le serpent à plumes, c'est à la fois un personnage qui a dû exister, ou en tout cas un seigneur qui a dû porter son nom à Tula. Et la légende dit simplement que... il a péché, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. C'était quelqu'un qui n'aimait pas les sacrifices humains, qui était très bon, qui aimait la culture, etc. Et puis un jour, il a effectivement fait ce qu'on fait sur la terrasse de Veracruz, il a bu. Et il a pris un verre, deux verres, trois verres, quatre verres, et au cinquième, c'est justement le chiffre du déséquilibre, il s'est trouvé ivre. Et à ce moment-là, il a fait quelque chose d'encore plus capital comme péché. Il a demandé d'avoir sa propre sœur à côté de lui. Et non seulement c'est l'idée de l'inceste qui est très, très impressionnante, mais c'est surtout le fait de l'avoir fait pour le plaisir, donc de dépenser l'énergie pratiquement pour rien. Je crois que c'est l'idée majeure. Donc c'était de nouveau ce déséquilibre curieux. Alors là, il a été tellement touché qu'il a décidé de se sacrifier. Alors il commande son tombeau, ça c'est la légende, on imagine bien un tombeau en pierre, et il commence à pleurer, on dit même qu'avec ses larmes il a creusé la pierre, et il a déménagé. Carrément. Depuis les hauts plateaux de Mexico, il est descendu sur la côte dans cette région de Veracruz. Selon la légende, il aurait fait construire un radeau qui était fait de serpents. Bon, pas un radeau tout à fait ordinaire. Et là, il l'aurait fait partir sur la mer, il se serait embarqué lui-même et il aurait fait brûler le tout. C'est-à-dire qu'on a l'autosacrifice, le flamboiement de ce radeau. Et les spectateurs disent qu'à ce moment-là, ils ont vu dans ce foyer, dans cette fumée qui montait vers le ciel, un cœur vert qui tout à coup s'est fixé dans le firmament. C'est bien Quetzalcoatl, c'est le serpent à plumes, mais c'est l'étoile Vénus. Cette étoile Vénus qui était un peu une étoile qui renaît, qui revient au moment du soleil de l'Est, etc. C'est l'étoile du berger pour nous. Mmh. Et bien en l'occurrence, juste avant de partir, juste avant cette espèce de migration étrange, à la fois divine et humaine, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, avait simplement dit « Je reviendrai ». Je reviendrai un jour, un peu comme le Christ qui dit, qui parle de l'Apocalypse et qui dit que je reviendrai un jour. Quetzalcoatl a dit la même chose en prononçant simplement le fait qu'il reviendrait la même année. C'est-à-dire l'année 1 du roseau. On me dira, 1 du roseau, ça ne vous dit pas grand-chose dans le calendrier précolombien, mais c'est important de savoir que l'année 1519, c'est l'année 1 du roseau.
Ah, très bien.
Donc, et quand Cortés est arrivé,
Cortés, voilà.
Il a été pris, bien sûr, pour ce dieu qui correspond à la blancheur, c'est-à-dire l'espace blanc et l'espace de l'Est. Il est blanc lui-même, il est étrange, il arrive sur des bateaux. Donc obligatoirement, on lui offre des coiffes, on lui offre certaines choses en pensant que c'est bien ce dieu qui revient. Et puis ensuite, je pense qu'à la limite, un empereur comme l'empereur aztèque a pu se dire « Bon, ben, si c'est pas lui le dieu, c'est peut-être l'envoyé du dieu, puisqu'il dit tout le temps, ce Cortés, même si on traduit à travers du maya, du nahuatl, à cause de la Malinche et des gens qui l'accompagnent, même s'il dit sans arrêt « Je viens au nom du grand souverain qui est là-bas en Espagne ». Alors, ça peut être compris, il y a quelqu'un en dessus de moi qui est plus grand que moi et qui est plus divin que moi. Mmh. Et comme l'Espagne, c'est nulle part, c'est carrément l'au-delà. Bon, on peut s'imaginer l'empereur aztèque qui se dit « Bah, tout, pourquoi pas ?» Cet homme qui, en 1519... Va prendre le pouvoir en Espagne, et qui est Charles Ier d'abord, ensuite Charles Quint, puis c'est l'année de son changement. Ben, ce Charles Quint, c'est peut-être un serpent à plumes précieuses qui vit là-bas, de l'autre côté des mers.
From behind the walls of doubt, a voice
Qu'est-ce que ça peut bien être, ce port de Veracruz, pour un Espagnol qui débarque comme ça au XVIIe siècle?
Ah, vous voulez qu'on vous fasse un petit truc d'époque, là, après l'idée de Quetzalcoatl? Eh bien, Frédéric, moi, si j'imagine le XVIIe siècle, je vous dirais que Veracruz, ça n'est rien du tout. Je m'explique, c'est-à-dire quand on arrive dans les premiers temps de la colonie, c'est en fait un lieu de passage. Alors bien sûr que la flotte vient de Cadix, peut venir de Séville, c'est vraiment le grand voyage. Hein. La traversée complète de l'Atlantique, ce sont de véritables caravanes qui fonctionnent ainsi deux fois par année, mais il n'y a pas d'autres contacts. C'est-à-dire, il y a seulement cette grande flotte avec les bombardes, avec tout ce qu'il faut pour protéger l'ensemble des bateaux. Mmh. Et le mouillage était parfait, on avait attendu quatre coups avant de trouver le bon, on est protégé par San Juan de Ulua, par ce rocher que j'évoquais tout à l'heure, mais en fait on ne s'y attardait absolument pas parce que d'abord c'est totalement insalubre. On n'y pense plus aujourd'hui. Hein. On s'est lutté contre la malaria. On a quand même passablement supprimé les grands marécages, etc. Mais c'était vraiment un endroit impossible. Donc, je dirais que même quand on... Je pourrais prendre l'exemple d'un grand voyageur qu'on évoque souvent quand on parle de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Nord, c'est Thomas Gage, qui lui a vraiment très bien décrit son voyage. Ben, lui disait que quand il avait débarqué là, aux alentours de 1624-25, Veracruz, c'était encore qu'une toute petite agglomération où il y avait des cabanes en bois, donc c'est trois fois rien. Il y avait que le port et
port et ses cabanes en bois.
Bah oui, parce qu'il y avait peut-être une ou deux églises, mais tout était encore en bois. Et les premiers établissements, ou en tout cas les premiers bâtiments qui sont véritablement en pierre, vont être construits seulement au XVIIIe siècle. Et encore, il faut bien comprendre que les grandes opérations commerciales, rien ne se faisait à Veracruz à l'époque. On montait directement à Jalapa et on avait même monté une foire annuelle. On a déjà parlé de Jalapa, c'est cette capitale actuelle de l'État. On est à 1500 mètres d'altitude, le climat est bon. Alors obligatoirement, on prenait tous les produits qu'on amenait sur les caravelles ou sur les bateaux qui suivaient selon l'époque. Et on faisait grimper tout cela à Jalapa et là on faisait une grande foire annuelle. C'était pratiquement entre Mexico et la côte. Et finalement, Veracruz n'était qu'un lieu de transit. Alors je dirais aussi qu'il y a eu des choses assez curieuses, parce que vous me parlez de ce XVIIe siècle, je pourrais même vous ramener au XVIe, il y a quand même eu des personnages fabuleux comme Francis Drake, je crois que tout le monde le connaît, hein, ce grand pirate, ce corsaire de la reine d'Angleterre, là ça vous...
Ça y est.
Et il y a aussi John Hawkins qui a tenté bien sûr de... Bon, il faisait surtout de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? Vous savez, quand on s'occupe de vendre et d'acheter des noirs, la traite des noirs.
La traite des noirs.
Et finalement, il y avait tous ces esclaves là et ils sont venus je crois dans les années 1560-61 et ils arrivaient dans à l'endroit de l'île des sacrifices que j'ai aussi évoqué tout à l'heure. Uh-huh. Et là le vice-roi venait de prendre son poste et il a naturellement fait bombarder, enfin il y a eu toutes sortes de combats et de problèmes avec cela, et les corsaires anglais vont juger qu'il est tout à fait utile de se venger, parce qu'ils n'ont pas apprécié du tout un accueil aussi méchant de la part du vice-roi. Et pendant 30 ans, Francis Drake va véritablement harceler tous les galions espagnols qui arrivent dans ce port ou les autres ports. Et en 1580, ce sont les Hollandais d'ailleurs qui vont rôder dans cette mer des Caraïbes, qui vont venir jusqu'au golfe du Mexique et qui vont se montrer, je dirais, tout aussi actifs que les fameux Anglais. Hein. Ça, c'est une époque qui a dû être absolument incroyable. Il y a les Français aussi qui sont venus. Ils ont même fondé des établissements tout à fait permanents dans ce coin-là. Et je dirais même que là, puisque vous parliez du 17e, vous avez Van Horn, puis le fameux Laurent de Gaffe, qui est un Français incroyable aussi, vont s'emparer carrément par surprise du port de Veracruz. Et il y a eu des aventuriers autant du côté européen que du côté hispanique pour la défense. Il y a vraiment des moments absolument incroyables. Et pour cette couronne d'Espagne, je crois qu'il a fallu justement créer une véritable défense. On peut encore la visiter aujourd'hui, je crois dans les années 1740 seulement, on a fait un véritable fort. Il est superbe, hein. C'est vraiment le stéréotype du fort hispanique avec ses tourelles qui donnent sur la mer, avec cette pierre bien taillée, enfin des géoles incroyables qu'on peut visiter aujourd'hui, ou dès qu'il y a une marée, vous avez de l'eau jusqu'au cou, enfin... Ça, c'est les légendes. Hein. Quand on visite ces endroits-là, il faut toujours un endroit incroyable ou des oubliettes pour vous faire un peu peur.
Tout à fait.
Quand on évoque ainsi Veracruz, ben moi je dirais que c'est surtout sur ces fortifications. Quand on regarde la mer, quand on voit ces écueils, ces cocotiers qui se balancent doucement, là on comprend ce qu'était celle que vous cherchiez à connaître tout à l'heure, Frédéric, cette Veracruz du XVIIe. Et puis Veracruz, ça a été aussi un lieu assez curieux. Si on avance dans le temps, c'est un endroit qui a connu pratiquement toutes les invasions. Vous évoquiez tout à l'heure une époque, on pourrait remonter au 19e, il y a eu les Américains, il y a eu les Français, enfin tout le monde a déboulé à Veracruz.
Tout le monde a débarqué à Veracruz,
bah oui.
Tout le monde y a mis son grain de sel.
Et puis il y a eu surtout les événements de la guerre de l'indépendance, parce qu'au mois de juillet 1821, qui était le moment de la cassure entre le Mexique et l'Espagne, eh bien, le dernier vice-roi de la Nouvelle-Espagne, eh bien, il a été assiégé par un général assez curieux qui s'appelle Iturbide, qui a été d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il était empereur du Mexique un seul jour. Il faut le faire, il a un superbe palais à Mexico. Et je dirais que c'était surtout une époque un peu forte, parce qu'on parlait tout à l'heure de côté insalubre. Il y a bien sûr les petits moustiques femelles qui sont méchants, mais il y a aussi la fièvre jaune, qui était une fièvre qui a beaucoup touché les gens de Veracruz. Il y a eu des ravages absolument incroyables dans toute la suite du vice-roi que je viens d'évoquer tout à l'heure. Mm-hmm. Et c'est là que le 21 août, on va signer vraiment le traité qui va finir pratiquement les 10 années de combat pour cette indépendance du Mexique. Donc vous voyez que Veracruz, c'est un endroit de croisement, c'est un endroit où finalement, on a même proclamé en 1822 la République. Pour la première fois, on a prononcé le mot de République. C'est Santa Anna qui a prononcé ce mot pour le Mexique. Donc historiquement, il y a de quoi rêver. Je n'ai toujours pas bougé de ma chaise et j'attends la boisson suivante.
Thank you.
On disait tout à l'heure, Maurice, que Veracruz a été envahie perpétuellement. Parlez-moi de l'invasion des Français.
Les Français sont arrivés très tôt, finalement. Bon, il y a eu les corsaires qu'on évoquait tout à l'heure, mais à part de Graff, il y a eu surtout en 1838 une histoire assez curieuse. Ça, je me rappelle, c'était une sorte d'escadre française qui est arrivée tout simplement pour exiger le paiement d'une indemnité. Oh, c'est une sombre histoire. On prétendait que on n'avait pas rendu l'argent d'un boulanger français qui faisait déjà son petit pain français. Non, je plaisante un peu, mais c'est vrai qu'il y a un boulanger qui était installé à Veracruz et qu'on a exigé simplement que ce pâtissier soit indemnisé parce que il ne l'avait pas été comme certains ressortissants français. Là, c'était la période un peu intermédiaire. Il y a eu des changements de gouvernement après l'indépendance. Ça n'était pas évident. Eh bien, cette escadre française va carrément attaquer le fort que nous visitions tout à l'heure, ouais. Qui est vraiment la prison la plus sinistre de toute la Nouvelle-Espagne, là où je vous disais gentiment que ces geôles ont été des geôles complètement impossibles. Eh bien, ça a été bombardé en 1838 là, par les Français. Et finalement, ils vont revenir un peu plus tard aussi. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu les années 40. Là, on est toujours au 19e. Ça a bougé hein, pendant tout le 19e. En 1847-48, eh bien, il y avait un général qui est assez connu aux États-Unis, Winfield Scott. Scott qui, lui, pendant la guerre entre le Mexique et les États-Unis, ben, au mois de mars, il va arriver et puis il va carrément bombarder la ville et puis ensuite prendre le chemin de Mexico. Donc les États-Unis ont fait une entrée fracassante au Mexique, et tellement fracassante qu'ils en ont gardé la moitié. Hein. Si vous regardez la carte, vous voyez tous les noms hispaniques des États-Unis, à commencer par Los Angeles.
Tout à fait. Ouais.
Bah, tout ça, c'était bien sûr le Mexique avant cette guerre des années 1840. Alors, c'est une forte armée qui est venue occuper donc Veracruz avant qu'on monte sur la capitale. Puis je vous dirais qu'alors, si vous attendez un peu, en 1862, il y a encore eu un problème avec nos Français. Et en l'occurrence, il y avait des Espagnols qui étaient avec eux. C'est normal, hein, ils essayaient de revenir. Hein, ils avaient perdu toutes leurs possessions à partir de 1821. Il y a même des Anglais qui étaient là aussi, tout le monde s'en mêlait, toute l'Europe avait envie de récupérer certains morceaux de l'Amérique latine, mais c'était encore un prétexte de paiement. Celui qui dirigeait à l'époque, c'était Benito Juárez. Juárez, c'est le premier grand président de la République mexicaine qui était de couleur, qui était même indien, de la région de Oaxaca, et naturellement, il ne pouvait pas payer certaines compensations qu'on demandait systématiquement. Et bon, il avait des problèmes de trésorerie, ce qui était le cas de tout le 19e avant les dernières grandes dictatures. Et les Espagnols, les Anglais vont se retirer, mais l'armée française, elle va rester puisque c'est Napoléon III qui va s'en mêler et on va même soutenir comment est-ce qu'on peut les appeler, les conservateurs mexicains de l'époque. Et finalement c'est Maximilien qui va arriver. Vous vous rappelez de cet empereur un peu fantoche, Maximilien de Habsbourg, accompagné de Charlotte de Belgique, fille de Léopold Ier de Belgique, qui vont arriver, qui vont débarquer en 1864 et qui vont, ça c'est une aventure, ça on pourrait perdre une heure uniquement sur leur histoire parce que c'est vraiment la chose la plus épique du 19e, 1864. Cette ville de Veracruz avec la peste, le climat de tout à l'heure, pas de bistrot sympa, un accueil complètement nul, je dirais même un silence de mort lorsqu'ils sont arrivés avec cette frégate. Tiens, c'est la frégate de Sissi qui était partie de Miramar et donc sur la côte près de Trieste là. Ils traversent, ils arrivent de l'autre côté, ils sont joyeux, ils sont nouveau mariés, ils se disent déjà empereur et impératrice, ils sont sûrs d'être accueillis par leur peuple, ils parlent d'ailleurs leur langue, il est capable de parler l'espagnol, Maximilien, et puis non, il arrive, c'est le silence parfait, ils doivent prendre le train pour monter, on vient de le construire, prendre le train pour monter à Mexico, et finalement, Veracruz, elle va être évacuée beaucoup plus tard, c'est le général Bazaine, encore un général français bien connu, qui, en mars 1867, va laisser carrément Maximilien au Mexique. Débrouille-toi. C'est lui qui devait l'appuyer. Tout le contingent français s'en va et Maximilien reste seul avec son sort. Et vous connaissez la suite puisqu'il va être fusillé à Querétaro quelques mois plus tard par les troupes de Juárez qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis Charlotte, elle va partir au Yucatan et ensuite aller voir le pape, aller voir toute l'Europe pour essayer d'ameuter, disons, même avant la mort de son mari, d'ameuter l'Europe pour aider ce pauvre empereur tout seul. Et puis en 1914, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une intervention extrêmement forte aussi, puisqu'on parlait de guerre, les États-Unis, c'était l'époque de Woodrow, eh bien les États-Unis vont vouloir renverser le général Huerta, là on rentre dans des choses très délicates de l'histoire mexicaine, puisqu'on est en pleine révolution, et Veracruz va encore être occupé pendant quelques mois. Donc vous voyez, c'est vraiment un endroit de passage. Quand on disait passage, on ne peut pas rêver plus passage pour toutes les armées et tous les marins du monde. Thank you.
On a fait un peu d'histoire, Maurice. On a un petit peu expliqué toutes les invasions qui s'est passées au 17e.
On a fait un peu le ménage à Veracruz, quoi.
Exactement. Mmh. Donc, on retour à la terrasse. Qu'est-ce qu'on peut faire à part la terrasse.
Ah, moi, je fais rien d'autre. Mais si vous aimez vous baigner, si vous avez envie de vous balader, moi, je descendrai quelques kilomètres plus loin. J'irai, par exemple, à Boca del Rio. Voilà un joli nom. La bouche de la rivière, hein. Vous l'auriez traduit ?
Oui, je l'aurais traduit.
Boca del Rio. Boca, ça fait aussi penser à...
Hein, à un sandwich aussi.
Non, à Veracruz, ce serait dommage. À Boca del Rio, il y a... Bien sûr, je parlais du port. Bon, le port, il a quelque chose de portuaire, j'entends par là. C'est pas très drôle de voir, la plateforme pétrolière qui va partir du côté de Tampico, qui traîne dans un coin du port, qui est flottante d'ailleurs, c'est assez curieux. Ces immenses paquebots qui viennent de n'importe où et qui ont traversé l'Atlantique. Ces bateaux un peu plus rouillés qui viennent des Antilles ou d'ailleurs. Mais c'est bien pour le matin, après la nuit blanche, parce que le lever de soleil est la chose la plus intéressante de Veracruz. Le coucher, on l'oublie un peu, hein, c'est derrière les montagnes, c'est dans votre dos. La place est belle avec ses couleurs vertes, bleues, blanches, un peu rougeoyantes selon le type d'éclairage et la verdure. Mais le matin dans le port avec les premières lueurs et ce soleil qui se lève sur l'Atlantique, ou alors quand vous prenez un bateau et vous allez jusqu'à San Juan de Ulua, le fort, vous allez même plus loin jusqu'à l'île des Sacrifices. Ça c'est pas mal. C'est un Veracruz inattendu. Puis derrière vous, quand vous vous retournez au premier éclairage, vous avez le pic d'Orizaba qui s'éclaire et c'est le plus haut sommet du pays. Il est à 5600 mètres et quand vous avez tout à coup cette neige qui devient rose aux premières lueurs et puis ces cocotiers qui continuent à onduler, qui sont encore un peu noirs avec une plage qui est à la fois blanche et noire, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Mais moi je la longe volontiers aussi. Il y a un côté un peu plus moderne, le Malecón, enfin... la promenade des Anglais, si vous voulez.
Façon Veracruz,
je l'appelle comme cela, mais ça ressemble à ça. Avec une plage qui peut être habitée à n'importe quelle heure du jour, je dirais pas de la nuit, mais du jour sûrement. Dès qu'on est un peu en dehors du port et éventuellement d'une... Bah, il faut le dire, hein, ça arrive que les ports soient un peu polluants. On peut se baigner dans la région de Veracruz. Mais Boca del Rio, c'est en même temps la végétation, ces centaines de petits bateaux de pêcheurs qui reviennent chargés de crevettes, le petit bistrot comme sa terrasse, où vous faites un plateau de fruits de mer absolument impossible. Toujours avec cette...
Qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner là-bas?
Au petit déjeuner, on reste alors en tropique, on reste incontestablement fruits. On peut tout manger, c'est-à-dire qu'on se nourrit bien le matin. Mais incontestablement, dans la région de Veracruz, je dirais ananas, papaye, jus d'orange, frais.
Au poil.
Oui, et puis de nouveau, avec rien, on fait quelque chose. Hein, c'est-à-dire que la table, les chaises, la paillote, c'est rien. C'est vraiment rien. Il suffit de se protéger du soleil dès qu'il est apparu et puis de s'habiller le moins possible. Les doigts se croisent tout seuls. Hein. Là, je parle des doigts de pied, monsieur. Non, il y a une ambiance délicieuse. Et ce côté Boca del Rio, c'est en même temps le rythme. Vous voyez même le corps des gens a changé. L'ondulation, la façon de se balader... les femmes sont plus féminines, les hommes sont moins masculins, il y a quelque chose de lascif. Et ça fait du bien, avec un petit rien de chapeau sur la tête, avec cette ondulation. L'Atlantique n'est pas tout à fait celui qu'on croit. Mm-hmm. C'est un océan qui là, prend des intonations beaucoup plus caraïbes, finalement. Il y a peu de noir à Veracruz, proportionnellement à d'autres endroits de la côte. Mais même l'Indien, qu'il soit Huastec, qu'il soit Totonac, qu'il soit Olmec plus bas, l'Indien a changé. Celui-ci est conscient qu'il vit sous les tropiques. Et puis, c'est pas très large. Ça fait quelques dizaines de kilomètres avant de grimper, de commencer à grimper. Mais c'est curieux. Il y a une ethnie que je reconnais toujours n'importe où au Mexique, que ce soit avec les musiques qu'on a passées aujourd'hui, hein, Michael Jackson en pleine boîte à Mexico. Uh-huh. D'où venez-vous ? De Veracruz. Et là, vous le sentez. Il y a quelque chose. Juste comme ça, au niveau de la peau, au niveau de la façon de la voix même.
Dimanche prochain, nous irons.
Et bon, on va faire quelques 400 km pour continuer en plein tropique à descendre jusqu'à Villahermosa. C'est à la fois découverte Boca del Rio et puis un peu pétrole avec des lacs, avec un lac en particulier, Catemaco, un endroit qui vous fera rêver avant d'arriver à Villahermosa. Elle n'a rien de Villa, elle n'a rien d'Hermosa, mais c'est quand même une capitale et c'est l'état de Tabasco. Un très joli nom.
À dimanche.